This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
Et donc ce soir-là, cette copine et moi, on se rend compte que l'une et l'autre, nos copines françaises, nos copines parisiennes, nous demandent de leur ramener des rabbits de Londres. Donc les rabbits, c'est des jouets intimes avec une double vibration. C'est ce qu'on faisait de mieux en termes de sextoys. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que les Françaises, elles n'ont pas accès à ces produits qui, pour moi, font partie des produits du quotidien qu'une jeune femme doit pouvoir acheter facilement.
Avant de commencer l'épisode, juste un petit rappel pour vous dire que l'offre de lancement de notre formation Confiance en soi se termine dans quelques jours. Si vous avez besoin de booster votre confiance en vous, de passer enfin à l'action et de trouver du soutien auprès de femmes bienveillantes dans notre groupe privé, n'attendez plus. Toutes les infos sont dans la description du podcast. Comment oser ? Comment tout quitter pour lancer un projet entrepreneurial ? Comment passer du monde prestigieux des avocats d'affaires de la City londonienne au sextoy ? Comment assumer ? Comment retourner à une vie d'étudiante à 30 ans passés ? Ce sont toutes les questions que j'ai posées à Anne-Charlotte Desruelles, ancienne avocate à Londres et fondatrice de la marque de jouets coquins Soft Paris. Il y a 17 ans, Anne-Charlotte se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Elle ne sait pas bien comment payer son loyer chaque mois, mais elle est convaincue que son chemin est le bon. Quelques années et quelques millions de chiffres d'affaires plus tard, Anne-Charlotte revient sur son parcours. Une vraie mine d'or pour tous ceux qui veulent entreprendre, qui doutent et qui ont besoin d'un vrai coup de boost. J'espère que cet épisode vous inspirera autant qu'Anne-Charlotte devant ses jouets coquins et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anne-Charlotte et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir.
Merci Sarah.
Pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Bien sûr, je m'appelle Anne-Charlotte Desruelles, je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Soft Paris. Soft Paris, c'est premièrement une marque de produits coquins, et c'est aussi un réseau de vendeurs et vendeuses indépendants qui font des ventes sur les réseaux sociaux et à domicile.
Du coup, Anne-Charlotte, si tu es sur le podcast, c'est que évidemment, tu n'as pas toujours fait ça. Tu as commencé par d'autres pistes, par d'autres voies. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours avant l'aventure Soft Paris ?
Oui, bien sûr. Alors, avant Soft Paris, j'ai commencé par des études de biochimie et immunologie. Ensuite, j'ai fait des études de droit. Donc, j'ai été avocate d'affaires en Angleterre. J'ai aussi les diplômes nécessaires pour être avocate en France. Et j'ai fait aussi, j'ai fait le MBA de l'INSEAD, qui a été un peu la transition. Ça a été la transition après être avocate, en fait. Et après l'INSEAD, j'ai été embauchée par un laboratoire pharmaceutique dans lequel je suis restée 6 ou 9 mois. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai basculé vers l'entrepreneuriat. Qui, je pense, a été une excellente décision et un moment important, même si en réalité, je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai un père qui est médecin, mais qui est ultra entrepreneurial, en fait. Je connais pas de médecin qui ait monté autant de choses dans sa vie. L'intégralité de ma famille, en fait, est indépendant. J'ai jamais, en fait, conceptualisé la vie professionnelle comme étant employée. Donc c'est pour ça que ça m'a paru être une évidence de vouloir monter ma propre boîte.
Et entre le moment du coup où tu es dans ce labo et où tu as envie de faire de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe? Comment tu as tes premières idées et comment tu décides d'oser vraiment faire le premier pas?
Alors, je vais peut-être revenir un tout petit peu encore avant le moment où j'étais dans ce labo, en fait. J'avais envie d'être entrepreneur avant même d'être avocate, mais je me suis dit que avocate, ce serait une bonne école pour le faire. En réalité, avec de l'expérience et du recul, l'école de commerce, c'était une meilleure manière de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, à l'INSEAD encore, j'avais envie d'être entrepreneur, mais la scolarité était quand même relativement chère. Donc, à la fin de l'INSEAD, plutôt que de me lancer dans un projet entrepreneurial ou l'un des projets entrepreneuriaux sur lesquels j'avais pu travailler pendant mes études, j'ai préféré, en fait, me faire embaucher de façon à pouvoir rembourser mes prêts étudiants, tout simplement. Donc, c'était plus une considération financière et certainement aussi un peu avoir les pétoches, quoi, parce que c'est vrai que se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est un pas à franchir.
Et donc, il y a un moment où quand même tu décides d'affronter cette peur ou d'affronter aussi ce frein financier. Et là, tu te dis, tant pis, je saute quand même le pas.
Voilà, l'entrepreneuriat m'attirait. Cette peur, elle était existante. Mais en fait, aussi bien quand j'étais avocate que quand je bossais dans le labo, en fait, je me suis rendu compte que je suis une grosse bosseuse. J'ai une éthique de travail importante. Donc, quoi qu'il arrive, je travaille. Mais ce gros volume de travail, en fait, premièrement, ne correspondait pas forcément à mes valeurs, à ce que j'avais envie, à la différence que je pouvais faire dans le monde. Et puis, globalement, je permettais à d'autres personnes de gagner de l'argent et pas à moi. Même si que je travaille un petit peu ou énormément, que je fasse mon job correctement ou ultra bien, ça faisait une différence au bottom line de quelqu'un d'autre et pas au mien. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis dit, à un moment donné, il faut se lancer. Le labo qui m'a embauchée, en fait, je pense que j'ai eu un coup de bol parce que au bout de quelques mois, ils m'ont remercié. Donc, ils ont compris qu'il y avait un mismatch entre eux et moi. Et c'était, c'était un vrai cadeau, en fait. Hein. Quand on se fait remercier, parfois, on se dit, mais pourtant, j'ai bien fait mon taf, etc., ce qui était le cas. Mais pour moi, il y avait un vrai silver lining, il y avait un vrai côté, c'est une opportunité. Et cette opportunité, je l'ai saisie et c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, hop, je me lance. J'ai pas réfléchi à 15 000 idées d'entrepreneuriat. En fait, c'est lors d'un dîner avec une copine qui, elle aussi, avait passé une dizaine d'années en Angleterre, qui, elle aussi, avait une culture similaire à la mienne, parce qu'en fait, moi, je suis partie de France, j'avais 19 ans, j'y reviens après l'INSEAD, j'ai 30 ans, et donc pendant toutes ces années de ma vingtaine d'années, j'étais à Londres, et en Angleterre, ça faisait partie de ma normalité, en fait, qu'un samedi après-midi, quand je fais du shopping avec les copines, on fait les magasins de fringues et il y a une boutique avec des jouets intimes et on y va et on achète des choses. Très bien. Et donc ce soir-là, cette copine et moi, on se rend compte que l'une et l'autre, nos copines françaises, nos copines parisiennes, nous demandent de leur ramener des rabbits de Londres. Donc les rabbits, c'est des jouets intimes avec une double vibration, peu importe l'aspect. voilà, mais c'est ce qu'on faisait de mieux en fait à ce moment-là, c'est ce qu'on faisait de mieux en termes de sex toys. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que les Françaises, elles n'ont pas accès à ces produits qui, pour moi, font partie des produits du quotidien qu'une jeune femme, doit pouvoir acheter facilement. Que quand j'ai eu ce déclic ce soir-là, et ben dès le lendemain, j'ai commencé à regarder le marché, j'ai commencé à me renseigner, comprendre ce qui se passait en France à ce moment-là.
Donc, tu quittes ton boulot. Et financièrement, comment ça se passe? C'est-à-dire que toi, tu as quelques mois d'avance pour vivre, pour lancer ton projet. Est-ce que tu sais à peu près combien tu as envie d'investir dans ce projet?
Alors oui, j'ai quelques mois d'avance et j'ai mis dans la boîte 7000 euros. J'ai quelques mois d'avance et les ACEDIC. Donc j'ai calculé que je pouvais survivre pendant deux ans et demi à peu près. Et donc ça me donnait du financement de lancement en fait, une rampe de lancement pour ma boîte en y mettant effectivement que 7000 euros pour commencer.
Oui, et quand tu dis survivre, ça fait aussi référence à, quand on préparait le podcast, tu me disais qu'effectivement, ça impliquait aussi beaucoup de concessions de faire ce choix.
Oui, alors effectivement, je pense que, je peux parler des concessions que j'ai faites, mais je pense aussi aux gens qui écoutent ton podcast, hein, si j'ai bien compris, c'est des gens souvent qui se posent la question, est-ce que je me lance ou pas. À mon sens, il faut effectivement vraiment regarder tes dépenses. Et te souvenir, donc, les dépenses, quelles sont les dépenses incontournables, quelles sont les dépenses qui sont sympas, mais qui ne sont pas complètement incontournables. Remémore-toi également les années où t'étais étudiant. Moi, j'ai habité en coloc, et voilà, pour 400-500 balles par mois, je couvrais tous mes frais. Donc, c'est complètement dans ce mode de dépense qu'il faut revenir, en fait, si tu vas autofinancer ton entreprise. Alors, c'est vrai que passer d'un salaire à 6 chiffres à revenir à un SMIC moins pour vivre, ça demande forcément des concessions, ça demande des compromis au quotidien. Et il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas voulu faire de compromis. Donc, dans les choses sur lesquelles j'ai pas voulu faire de compromis quand j'ai lancé la boîte, c'était notamment de continuer à faire du yoga, parce que ça fait partie de ma santé mentale, de ma santé physique, du fait d'être bien stable et d'être bien tous les jours dans ma vie. L'autre truc sur lequel j'ai pas fait de compromis, c'est d'avoir une femme de ménage.
Ok.
Donc, certes, ça, voilà, c'est une dépense non négligeable. Quand tu as un micro-budget, c'est une dépense non négligeable. Mais mon calcul, c'était que les 3 heures de ménage qu'il faudrait que je fasse vont être plus rentables pour moi si je passe ces 3 heures à pousser mon business. Donc, je préfère payer quelqu'un d'autre pour le faire. Donc voilà, c'est enfin dépense incontournable ou inutile, chacun voit midi à sa porte, mais ça fait partie de mes calculs. Après, dans les compromis, évidemment, les dîners avec les potes, t'oublies, enfin en tout cas moi j'ai oublié de façon à me concentrer sur mon business, de façon à bosser, pas forcément en termes de dépenses, je pense que j'y réfléchissais pas forcément à ce niveau-là. Par contre, quand t'as 30 ans, t'as plein de potes qui se marient. Et on sait que les week-ends de mariage des potes, ça coûte super cher. Surtout à l'INSEAD, les potes qui se marient. Moi, j'ai loupé des mariages en Inde. Les mariages en Inde, c'est un truc qui fait rêver, qui me fait encore rêver. D'une amie super proche qui s'est mariée, elle habite en Hollande. Bah, j'ai pas pu y aller. Ça fait partie des choses peut-être que je regrette parce que j'ai pas pu partager ça avec des gens qui me sont proches. Mais aujourd'hui, est-ce que je considère avoir fait le bon choix ou pas? Oui, parce qu'aujourd'hui, en termes de moyens financiers, en termes de liberté, il n'y a pas photo, quoi. L'entrepreneuriat, ça te permet d'avoir des choses différentes, mais vachement fortes.
Mais c'est bien que tu rappelles cette valeur travail, effectivement, parce que Je trouve que surtout sur les réseaux, on a tendance, tu vois, à un peu promouvoir cette image de tout très vite, très fort, très facilement. Et en fait, quand tu creuses généralement dans les histoires des entrepreneurs qui ont réussi, bah, y a énormément de travail, il y a énormément de concessions, il y a énormément de sacrifices. Donc voilà, c'est, je trouve que c'est important aussi que toi, tu témoignes sur cet aspect-là.
Ouais, ouais. Le succès du jour au lendemain, ça n'existe pas. Et même si tu vois Soft Paris, les premières années on faisait x3 tous les ans, donc ça veut dire qu'au bout de 3-4 ans la boîte elle faisait 3-6 millions de chiffres. Tu peux te dire c'est un succès du jour au lendemain. Non, c'est pas un succès du jour au lendemain.
Et parce que là du coup tu parles effectivement de la réussite en quelques années, mais si on revient sur les débuts, donc toi tu fais tes études de marché, etc., tu commences tes premières commandes aux fournisseurs. Et comment ça se passe en fait? Comment tu commences? T'as combien de produits? Sur quoi tu te concentres? Comment tu arrives à créer ton plan, tu vois, de développement? Parce que souvent, ce qui est aussi un peu le biais des gens qui commencent, c'est que t'as envie de tout faire. En plus, tu te compares à des gens qui sont déjà 3-4 ans plus que toi. Oui. Et donc, du coup, c'est compliqué de se focaliser et de canaliser son énergie et ses moyens.
Oui, oui, absolument. Donc, effectivement, au début de la boîte, j'avais un budget de 7 000 euros. Dans ce budget,
ce qui n'est pas énorme. Hein.
Ce qui n'est pas énorme. Mmh. Ce qui n'est pas énorme. Dans ce budget de 7 000 euros, j'avais besoin, truc fondamental, j'avais besoin de mettre en place un site e-commerce. Donc ça a été l'un des gros budgets. J'avais aussi besoin de produits. Donc, j'ai dû acheter du stock. Donc ça, c'est une gestion assez fine au quotidien. Et les autres dépenses, en fait, faut pas les faire, faut faire tout seul, quoi. Donc c'est être couteau suisse, c'est apprendre tous les jours sur des choses qui t'intéressent pas forcément, mais qu'il faut faire avancer. C'est aussi, je pense, trouver des manières différentes de faire les choses. Parce que une fois que tu as de l'argent, tu peux payer des agences, tu peux payer des consultants, tu peux payer des gens à faire les choses, très bien. Mais si tu n'as pas les moyens de le faire, y a la seule manière, c'est de le faire toi-même. Et c'est aussi de réfléchir de manière un peu différente. Par exemple, une boîte de RP aujourd'hui, ça coûte entre 3 500 et 5 000 balles par mois. Voilà, c'est le budget à peu près, l'enveloppe qu'il faut compter. Et notre première boîte de RP...
Et juste une parenthèse pour ceux qui savent, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui savent, mais RP, du coup, c'est les relations publiques, c'est ce qui va faire ta communication.
Voilà, exactement. C'est eux qui ont un carnet d'adresses de journalistes et voilà. En fait, nous, ce qu'on a fait pour notre première agence de RP, plutôt que de dépenser clairement sur un budget de 7 000 balles pour l'intégralité de la boîte pour les mois qui viennent, tu peux pas en dépenser 3 500 par mois, c'est juste pas possible. Et du coup, on a trouvé une agence qui était en train de se monter également. Donc, qui était une start-up d'agence de presse. Et on a fait un partage de revenus. Donc, pendant une période de démarrage, ce n'était pas un frais fixe, c'était un frais variable pour moi. Et du coup, s'ils nous aidaient à faire rentrer du chiffre, et ils étaient rémunérés. Donc, c'est des choses comme ça aussi auxquelles, je pense, il faut réfléchir quand on démarre, réfléchir différemment. C'est pas parce que habituellement, 99,9% du temps, c'est fait comme ça et ça va te coûter tant que ça va toujours être le cas.
Oui, c'est ça. Tu peux penser à des business models ou des façons de ne pas forcément rémunérer tes prestataires ou les gens qui t'entourent avec de l'argent.
Exactement, ouais. Et puis réfléchir aussi à de quoi eux, ils ont besoin. Qu'est-ce que moi, je peux leur offrir, leur proposer, qui ne va pas me coûter grand-chose, mais qui va leur être utile à eux. Et comme ça, c'est un échange de bons procédés, c'est un échange de visibilité, des choses comme ça. Oups. Et ça marche toujours. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui t'écoutent, qui ont envie de faire un échange de visibilité avec Soft Paris, je suis prête à l'entendre.
Et j'allais dire, est-ce que du coup, sur tout ton parcours, parce que maintenant, ça fait une quinzaine d'années, donc après, peut-être que les débuts sont quand même un peu loin, mais est-ce que tu te rappelles de moments peut-être où tu as eu des bas, tu as eu peut-être des envies de baisser les bras ou tu as enchaîné plusieurs galères?
Écoute, franchement, peut-être que ma mémoire les a effacées. C'est pas impossible. Mais j'ai pas eu de souvenir d'avoir envie de baisser les bras. Non. J'ai des souvenirs de moments charnières, moments où je vois que la roue elle est en train de tourner, un moment où je me suis rendu compte que voilà, la personne responsable c'est moi, des choses comme ça, mais non, des envies de baisser les bras, j'en ai pas eu. Je pense que j'avais en tête exactement ce que je souhaitais mettre en place. Suffisamment rapidement, il y avait des signes positifs. Et c'est ça aussi dont il faut se nourrir, je pense. Hein, à cette question, j'ai mes émotions qui montent et qui descendent, ma motivation qui monte et qui descend. Eh bien, si c'est ton cas, peut-être, en tout cas, je te le souhaite, qu'une fois par jour, au moins, tu aies une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, eh bien, tu te fais un post-it, tu l'écris. Et comme ça, tu le mets sur ton mur et tous les jours, tu as un nouveau post-it à y ajouter et c'est une petite victoire. Et c'est la somme des petites victoires qui va t'aider, je pense, à continuer et à garder ton objectif en tête.
Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'on a une formation confiance en soi et dedans, on donne l'exemple du carnet des petites victoires.
Ah, mais c'est exact.
Ouais, c'est assez drôle que tu en parles.
Et aujourd'hui encore, moi, j'envoie tous les jours, dès que j'ai une petite victoire, j'envoie un message à toute l'équipe avec ma victoire de la journée. Et elle peut être rikiki, hein. Elle peut être rikiki, peu importe.
Mais par exemple, c'est quoi ta dernière victoire des jours précédents? Tes dernières petites victoires.
L'une de mes dernières victoires, c'est une personne qui est dans la vente directe pour une autre marque qui commence à suivre mon podcast. Donc voilà, c'est une petite victoire, mais pour moi, ça veut dire que c'est un podcast que j'ai lancé il y a moins de 2 mois et qui commence à avoir de la visibilité pour les gens qui sont dans ce domaine-là.
Oui, parce que bah, tu en parles du coup, on peut en parler maintenant, mais ton podcast, effectivement, il est sur les coulisses de ton entreprise.
Oui, exactement. Ouais, c'est les coulisses d'une boîte de sextoys. Donc, c'est un podcast qui parle de différentes choses, de vente directe, de sexualité, d'entrepreneuriat et puis aussi justement de mindset, de comment tu fais pour garder ton objectif bien en tête, etc. Ouais.
Et donc, un petit aparté, mais il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute
Absolument toutes les plateformes d'écoute et aussi podcast.softparis.com.
Et tu parlais du mindset, du coup, j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui est récurrent dans ton discours. Est-ce que toi, il y a des espèces de bonnes habitudes que tu mets en place dans ton quotidien, par exemple, te fixer des objectifs, tu parlais des petites victoires, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place pour travailler ta vision, tu vois, pour garder cet état d'esprit positif, dynamique?
Oui, je pense. Alors, garder cet état d'esprit positif, dynamique, des choses de base qui sont bien dormir. Manger sainement, non mais ça paraît tout bête, hein, mais c'est fondamental. Bien dormir, manger sainement, faire du sport, faire de la méditation, c'est des choses de base. Moi, j'ai la chance d'avoir des croyances ultra fortes. Déjà, je suis une optimiste indécrottable, donc ça déjà, voilà. Mais si tu ne l'es pas, je te propose d'y réfléchir en tant qu'entrepreneur, ça peut t'aider. J'ai des croyances qui sont, par exemple, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On n'est jamais à l'abri d'un coup de chance, donc essaye. Voilà, des croyances comme ça qui, je pense, qui sont des vrais piliers dans ma vie, en fait, qui m'aident à continuer et à jamais baisser les bras. Et puis après, il y a aussi des gens qui écrivent des livres et qui font des podcasts et qui ont des chaînes YouTube, etc., qui sont vachement, vachement intéressants et qui peuvent t'aider. Donc, ça peut faire partie de routines quotidiennes ou même si ça n'en fait pas partie, c'est important de savoir où trouver ce genre d'informations pour le jour où t'as envie d'un peu de baisser les bras.
Et par exemple, t'as des gens en particulier que tu aimes suivre ou que tu aimes écouter?
Oui, alors il y a notamment Mel Robbins.
Ah oui, je l'aime.
Ouais, elle est trop bien. Il y a aussi Tony Robbins qui est un peu dans un genre différent.
Plus agressif.
Plus agressif, voilà, plus dans, en tout cas, pour moi, c'est plus dans le fait de faire monter de l'énergie en toi, mais c'est fondamental aussi. Hein, pour moi, si t'as pas la pêche, il y a deux choses à faire, dormir ou mettre tes baskets, voire même les deux. mettre tes baskets, aller courir, aller dans la forêt, etc. pour t'aider à te ressourcer, quoi.
Ouais, t'aérer. C'est vrai que ça marche. Te mettre en mouvement, ça marche vraiment. Ça marche vraiment.
Oui.
Il y a un sujet que je voulais aborder aussi avec toi parce qu'il est récurrent souvent dans les gens qui s'adressent à nous. C'est le poids de l'entourage, du regard des autres. La plupart du temps, on a vraiment des questions sur je ne suis pas soutenue, voire je suis critiquée ou tu vois, c'est même pas on ne me soutient pas, c'est on me met des bâtons dans les roues. Est-ce que tu as des conseils aussi là-dessus pour savoir bien s'entourer, pour savoir gérer le regard des autres ?
Alors, il y a pas mal d'aspects là-dessus. Le premier point, c'est pose-toi la question de qui paye tes factures. Si c'est les gens qui sont en train de te critiquer, très bien, ok. Par contre, en général, les gens qui ne te soutiennent pas et qui te critiquent ou qui te mettent des bâtons dans les roues, ce n'est pas eux qui payent tes factures. Donc, si ce n'est pas eux, eh ben, tu peux complètement ignorer leur opinion. Et tu peux aussi les éviter. S'entourer des bonnes personnes, avoir autour de soi à minima des gens neutres. Je ne dis même pas des gens qui te soutiennent ou qui font cheerleader autour de toi. À minima des gens qui sont neutres et qui ne vont pas venir essayer de te casser du sucre sur le dos. C'est le truc de base. Et justement, si tu ne bénéficies pas autour de toi de gens qui ont cet état d'esprit positif, qui va vers l'avant, qui fait des choses différentes, qui sort de leur zone de confort, eh bien, entoure-toi de ces motivational speakers, parce que si tu passes une heure par jour à les écouter, c'est comme s'il y avait une heure par jour quelqu'un à côté de toi qui te soutient, en fait. Donc cet entourage, peut-être que c'est pas tes amis, c'est peut-être pas ta famille, mais tu peux l'obtenir d'ailleurs quand même.
Oui, ça c'est je suis d'accord que c'est hyper important, parce qu'on dit souvent que en gros tu es les 5 personnes qui t'entourent, mais en fait, comme je trouve que ce qui est vrai, c'est que les 5 personnes, ça peut être aussi ce que tu dis une heure par jour, quelqu'un que tu ne connais pas directement, mais que tu écoutes pourtant quotidiennement, et ça fait quand même partie de ton entourage.
Ouais, c'est quelqu'un qui va faire partie de tes 5 personnes de tes 5 personnes d'entourage. L'autre truc aussi, je pense, pour les entrepreneurs, et particulièrement si tu as l'impression de ne pas être entouré, pour moi, il y a 3 catégories d'entrepreneurs. Il y a ceux qui en parlent beaucoup, ceux qui réfléchissent beaucoup et ceux qui font. Et les seuls vrais entrepreneurs et les seuls qui réussissent vraiment, c'est ceux qui font. Donc, arrête d'en parler. Arrête complètement d'en parler, peu importe. Fais. Et pour les gens de ton entourage, tu vas peut-être juste disparaître un peu, être moins présent, refuser parce que tu n'as pas le temps. Mais tu refuses parce que tu n'as pas le temps. Quand tu dis non à quelque chose, tu dis oui à autre chose. Donc tu dis non au dîner, tu dis non à aller prendre un café, tu dis non à passer une heure au téléphone avec quelqu'un qui est déprimé. Mais ça veut dire qu'en vrai, tu dis oui à ton projet à toi. Tu dis oui à l'avenir que tu souhaites te construire. Donc arrête d'en parler, arrête d'y réfléchir aussi. Passe à l'action.
Ouais, ça c'est hyper, hyper intéressant. Mais du coup, ça soulève un autre problème qui est le risque d'échec, qui est aussi la deuxième chose hyper récurrente dont ont peur les gens.
Moi, je veux bien qu'on discute du risque d'échec, mais avant ça, je pense que les gens qui passent pas à l'action, souvent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'être experts.
C'est vrai.
Ils ont besoin de tout savoir avant de commencer. Non, je pense que quand tu es entrepreneur, tu mets le pied sur l'accélérateur. C'est vrai que tu vas pas contrôler la voiture tout le temps, mais garde le pied sur l'accélérateur, tu vas apprendre au fur et à mesure. Le risque d'échec, oui, forcément, toute entreprise a un risque d'échec. Et si tu réfléchis à tout ce que tu... En fait, non, avant de commencer, tu vas même pas te rendre compte de tout ce que tu vas apprendre. en tant qu'entrepreneur, mais tu vas apprendre des compétences nouvelles, en fait, qui sont pas encore sur ton CV, mais que tu réussiras à valoriser de toute façon après.
Et toi, dans toute ton expérience du coup Soft Paris, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es trompé, t'as agi et en fait c'était pas les bonnes décisions, et si oui, qu'est-ce que ça a été tes réactions ou tes enseignements derrière?
Alors oui, évidemment, des erreurs, enfin j'en ai fait un paquet, des mauvaises décisions aussi, certaines qui m'ont coûté énormément d'argent, des 200, 300, 400 000 balles. Oui, ça j'en ai fait, hein, des erreurs comme ça. Mais le point le plus important, c'est d'apprendre de cette erreur et éviter de la refaire après, quoi. Mmh. Le truc aussi, c'est que la valeur de l'erreur, au départ, elle va pas être énorme. C'est pas très grave si tu sais pas exactement comment avoir un service client au top. C'est pas très grave quand t'as 2-3 clients. Mais évidemment, quand t'en as 300, ça devient plus grave. Donc, tu t'apprends au fur et à mesure, quoi.
Oui, donc toi, ton mantra, c'est plutôt faire quoi qu'il arrive. De toute façon, tu apprends de tes erreurs ou de tes réussites.
De toute façon, tu vas apprendre sur le tas. Quand on faisait la prépa ensemble, je t'avais parlé, peut-être que ça vaut le coup que je reparle de cet exemple-là, parce que pour moi, c'est vraiment un exemple frappant. Avant de lancer Soft Paris, j'ai mis à peu près 9 mois à pondre le business plan, à rédiger un truc, etc., vraiment pour bien mettre mes idées et ma vision en place. Et puis, au bout de 9 mois, à vrai dire, je pouvais plus creuser le sujet beaucoup plus. Il fallait que je passe à l'action. J'ai arrêté. Je parlais tout à l'heure de en parler, réfléchir et passer à l'action. Au bout de 9 mois, j'ai arrêté la réflexion pour passer à l'action, enfin. Et dans cette réflexion, dans la mesure où un axe important pour Soft Paris, c'est la vente à domicile, un vendeur, une vendeuse à domicile, elle a un kit de démarrage, donc des produits qu'elle va montrer à ses clients de façon à pouvoir leur vendre. Très bien. Donc, dans ma phase de réflexion, j'avais évidemment établi le contenu du kit, son prix, et ses modalités de paiement, etc. Mais... En un soir, j'ai reçu 28 demandes de gens qui voulaient rejoindre mon équipe et devenir vendeur à domicile. 28 personnes, selon mon plan, devaient recevoir 1000 balles de produits. Ça faisait 28 000 balles. J'avais mis 7 000 balles dans la boîte. Clairement, c'était pas possible. Donc, en moins d'une demi-journée, évidemment, j'ai revu ce plan-là, tu vois. Donc, j'ai eu beau y réfléchir pendant 9 mois et me prendre la tête et tout. Quand t'es confronté à la vraie réalité, tu te rends compte de si ta réflexion, elle valait la peine ou pas, et tu t'adaptes. Donc, c'est ça aussi, apprendre sur le tas. C'est pour ça aussi qu'il faut se lancer avant de tout savoir. Il faut se lancer même si on n'est pas expert, parce que tu vas apprendre. On a tous été débutants à un moment donné. Il y a deux moments parfaits pour planter un arbre. Le premier moment, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.
Je ne la connaissais pas, celle-là. Et du coup, alors je pense que... Toi, tu dois pas être sujet à beaucoup de croyances limitantes, mais je trouve que ça soulève aussi ça, c'est que souvent, quand tu as la peur de l'échec, quand tu as la peur d'oser, etc., il y a aussi ce truc de je vais pas y arriver, ou c'est pas pour moi, ou je suis pas assez commerçante, ou je suis pas assez ci, ou je suis pas assez ça. Est-ce que toi, tu avais quelques croyances limitantes quand tu as commencé ou pas du tout, et quelle est ta position par rapport à ça, tu vois, pour essayer de s'en défaire le plus facilement possible?
Moi, j'ai encore quelques croyances limitantes, même si j'en ai conscience et que je bosse dessus. J'ai encore aussi imposter syndrome, le syndrome de l'imposteur. Tout ça, en fait, on l'a tous. Ça se bosse aussi. Enfin, il y a pas mal de techniques pour le faire. L'une des techniques, c'est de lister toutes les choses que tu as accomplies. Donc, tu peux avoir, on parlait tout à l'heure des carnets de tes succès. Tu peux aussi avoir un carnet de tes fiertés. Il y a quelqu'un qui a écrit des choses fabuleuses pour t'aider à reformater ton dialogue interne. Donc, si dans ton dialogue interne, il y a « je suis pas assez bonne, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas, de toute façon, ça, je connais pas », etc. Il y a les livres de Louise Hay. Hay, c'est H-A-Y, qui aident vraiment à se rendre compte que ce n'est que ton cerveau qui est en train de te bloquer et surtout de te débarrasser de ces pensées limitantes et de ce dialogue interne négatif.
Ok, bon, bah je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et du coup, si on revient sur ton aventure Sauve Paris, qui moi je trouve est quand même hyper inspirante, puisque tu as commencé à, tu disais, bah, tu as mis 7000 euros, puis après tu as dû faire quelques centaines, peut-être même moins de chiffre d'affaires, et puis en fait, quelques années plus tard, ça, tu parlais en millions. Est-ce que pour les gens qui ont envie de se lancer ou de lancer un projet, tu as peut-être des conseils sur... Alors même si tout projet est spécifique, mais tu vois, sur la marche à suivre, sur les grandes étapes, sur peut-être les choses à faire, les choses à surtout pas faire, tu vois, de manière vraiment business. Désolée, c'est une question hyper vaste.
Tu me demandes un cours de 3 jours, là, je pense.
Ouais.
Je vais me référer à une discussion que j'ai eue récemment avec quelqu'un qui m'interrogeait sur j'ai envie de lancer un restaurant, comment je m'y prends. Donc par exemple pour le restaurant, mais ça s'applique en fait à tout, je proposerais d'y réfléchir en grosses colonnes. T'as une grosse colonne de qu'est-ce que le restaurant va servir, c'est quoi le type de menu, c'est quoi, voilà, est-ce que c'est un restaurant italien ou libanais ou peu importe, donc c'est quoi ta proposition, c'est quoi ton offre. Un deuxième bloc, c'est quel est ton environnement concurrentiel, qu'est-ce qui existe déjà. Et une fois que tu as ton environnement concurrentiel, quels vont être tes forces et tes facteurs différenciants. Une troisième colonne, c'est comment tu finances et où est-ce que tu vas avoir besoin obligatoirement d'argent et à quel moment. Pour ton restaurant, il va falloir financer le loyer. Mais financer le loyer, ce n'est pas du tout la même chose que financer ce que tu mets dans tes frigos tous les jours. Donc, il y a plusieurs blocs comme ça auxquels... donc, en fonction du projet, évidemment, tes blocs, ils vont être très différents les uns des autres.
Ok, non, c'est plutôt clair. Et après, ça rejoint ce que tu disais avant, c'est qu'effectivement, une fois que tu as bien posé toutes les choses, que tu as analysées, etc., c'est qu'à un moment, il faut se lancer, quoi.
À un moment, il faut se lancer, exactement. Et quand tu te lances, à un moment donné, forcément, il faut faire pareil. Faut faire pareil, il faut le faire toi-même. Quand il y avait une seule vendeuse à domicile Soft Paris, c'était moi. Voilà, j'ai sillonné la région parisienne à bord de mon scooter avec un sac rempli de produits de jouets intimes.
Toi, tu as fait la vendeuse? Mais je ne savais pas ça.
Bien sûr. Parce que quand il y avait qu'une seule vendeuse, c'était moi. Et puis, pendant les 6 premiers mois, j'avais plus de demandes en région parisienne que... Voilà, à part le faire moi-même, on ne pouvait pas le faire autrement, quoi.
Ok, donc tu prenais tes produits et après, tu allais faire tes réunions. Ok.
Oui.
Mais ça, c'est hyper important aussi, je pense, dans ton process, c'est qu'après, tu connais vraiment sur le bout des doigts tous les aspects de ton entreprise.
Et, exactement. Ouais. Donc ça te permet d'avoir une connaissance à l'intérieur du truc. Et les émissions où le patron et l'employé échangent de place, en fait, c'est vachement important parce que quand tu prends... Et moi, ça m'arrive de faire quelques heures de service client, par exemple, et ça m'aide à re-réfléchir au process de façon à gagner en efficacité, de façon à ce que le message il soit formulé de la même manière, etc. Donc, une vraie connaissance de l'intégralité des métiers au sein de ton business, c'est important de l'avoir. Donc, ouais, et pour commencer, de toute façon, tu vas tout faire tout seul. Ouais. Tu vas tout faire toi-même, a priori.
Non, j'allais dire, sur ces sujets-là, toi, tu n'as jamais eu de, je sais pas, de problème d'ego, tu vois, ou de te dire, bon, bah, j'étais avocate à la City, là, je suis sur mon scooter, je vais vendre des sextoys. En fait, est-ce que ça servait un but et du coup, tu n'y pensais même pas? Ou est-ce que parfois, tu te disais, bon, où est-ce que je vais quand même?
Non, parce qu'en fait, je l'ai toujours fait avec une certaine vision de là où je voulais aller. Et voilà, il faut passer par certaines étapes, et si tu les fais pas, le projet il avance pas. Donc non, j'ai pas eu de souci d'ego par rapport à ça. Non, le truc d'ego, qui en fait, j'étais très surprise la première fois où des gens de l'équipe, donc des vendeurs avec qui on travaille, des vendeuses avec qui on travaille, la première fois qu'elles ont voulu me prendre en photo avec elle, tu vois, en mode selfie ensemble. Je me dis, mais pourquoi? Bon. Et voilà, c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est au fur et à mesure de rester toi-même, de pas devenir quelqu'un d'autre juste parce que tu as une boîte qui marche bien à ce moment-là, ou juste parce que tu payes le salaire de quelqu'un, quoi. Tu restes la même personne. En tout cas, j'essaye de rester la même personne et la plus humaine possible et la plus approachable. La plus, comment on dit en français, approachable, c'est...
Accessible, ouais.
Accessible, ouais, ouais. Je pense que c'est ça le bon mot, ouais.
Il y a beaucoup d'anglicisme, mais pour le coup, tu es pardonnée puisque tu vis à Londres depuis énormément d'années.
Ouais, j'habite à Londres depuis un bon moment, donc oui, pardon pour les anglicismes.
Et une question aussi que j'avais envie de te poser, c'était sur, alors t'en as parlé brièvement au début de l'épisode, mais c'était sur le sens vraiment profond de pourquoi tu voulais faire ça, parce que je sais que souvent, on peut vouloir faire de l'entrepreneuriat pour les mauvaises raisons qui sont gagner de l'argent ou être libre, par exemple, c'est des espèces de fausses idées qui reviennent souvent. Toi, quand t'as commencé Soft Paris, est-ce que tu savais exactement pourquoi tu le faisais?
Alors très clairement, pour moi, c'était une question de liberté aussi. Je pense pas que ce soit une fausse bonne raison, mais c'est vrai que c'est une fausse bonne raison. Très souvent, c'est une fausse bonne raison. Parce qu'en fait, les premières 6-7 années de Soft Paris, j'ai bossé énormément et beaucoup plus que quand j'étais employée. Donc, c'était vraiment pas un truc de liberté.
Oui, tu bossais le week-end, tu bossais sans arrêt, quoi.
Exactement. Et puis, une fois que tu as une boîte, voilà, je pourrais pas aujourd'hui décider d'aller habiter en Asie. Mon business, il est pas en Asie. Donc, tu perds un certain niveau de liberté aussi par rapport à ça, forcément. Mmh. Mais par rapport au sens, oui, pour moi, c'était vraiment important et c'est ce qui m'anime toujours et c'est aussi pour ça que je suis toujours là. C'est que je sais qu'avec Soft Paris, on aide des femmes, on aide des couples, on permet à des couples de retrouver un nouveau printemps, on permet à des couples de tomber enceinte, voilà, parce que ça va mieux au sein de leur couple, leur sexualité se passe mieux, etc. Et donc il y a ça pour les clients, et au sein des ambassadrices, des conseillères, on a tellement d'histoires magnifiques et des gens que je rencontre une première fois. Et quand je les revois 2 ans, 3 ans plus tard, toujours dans l'équipe, et qui ont gagné en confiance en elles, qui ont appris de nouvelles compétences, il y a des vraies transformations de vie, en fait. Et ça, c'est super.
Oui, parce que là, tu n'en as pas parlé, mais vous êtes combien? Il y a combien de vendeurs chez Soft Paris?
Alors, ça dépend du chiffre que tu prends, en fait. Est-ce que c'est les gens qui travaillent tous les mois? Est-ce que c'est les gens qui travaillent sur 6 mois? Donc, il y a plusieurs centaines de personnes, en fait, qui travaillent dans l'équipe. Sur l'historique de Soft Paris, c'est plus de 11 000 personnes qui ont travaillé avec nous. Donc, c'est beaucoup de gens, quoi, forcément. Ouais.
Et sur les sujets business, est-ce que tu as aussi des recommandations? Ça peut être des livres, des ouvrages, des formations, des choses qui t'ont aidé?
Ouais, j'ai plein de recommandations de bouquins. Je pense que l'un des facteurs aussi, peut-être, si je peux me permettre un conseil pour une entreprise qui est en démarrage, c'est de commencer à mettre en place des process. Parce qu'en fait, tu vas vite te rendre compte que tu fais tout le temps les mêmes choses. Donc voilà, pendant les 6 premiers mois, tu fais, et tu refais, et tu refais, et tu refais. Et si ta boîte, elle marche, forcément, assez rapidement, tu vas souhaiter déléguer certaines tâches parce que voilà, il y a trop de volume ou tu as besoin de mettre ton énergie ailleurs. Et ce n'est pas le jour où tu embauches la première personne qui sera au service client que tu vas commencer à mettre en place les process. Donc, commence à écrire tes process pendant que tu fais toi-même ce travail.
Oui, mettre en place un process, ça veut dire quand tu es en train de faire une tâche, tu te dis étape 1, c'est rentrer tel truc dans tel fichier, étape 2, en fait, c'est ça, tu écris vraiment très concrètement ce que tu fais.
étape par étape, écrire ce que tu fais. Je me connecte ici, le login, l'identifiant, c'est ça. Je vais sur tel onglet, ensuite je clique ici, etc. Quand tu lances une boîte et que forcément tu es un peu pompier qui doit être sur tous les fronts et tu as des feux à éteindre à droite à gauche, c'est vraiment le dernier truc que tu as envie de faire. Mais tu peux aussi t'enregistrer en train de le faire.
Ouais.
Tu peux enregistrer ton écran, tu peux enregistrer ta voix pendant que tu cliques, tu peux dire « là, je vais là, là, je vais là ». Ce sera déjà une base. Et du coup, ta personne au service client qui arrive, tu ne vas pas passer la première semaine à la former et à faire le boulot avec elle à côté. Et ben, la première semaine, elle ira visualiser, regarder les vidéos, ou elle ira lire ce que tu as écrit, parce que c'est quand même, je pense, en écrit que ce sera le plus simple à communiquer. Mais voilà, commencer. Ta Bible, cette Bible de process, elle n'est jamais finie. C'est quelque chose qui est vivant et qui, encore aujourd'hui dans ma boîte, évolue tous les jours. Mais c'est ça qui permet que si la personne qui est responsable de tel ou tel truc, elle n'est pas là, elle est malade, c'est dimanche soir, peu importe, n'importe qui d'autre de l'équipe peut ouvrir la Bible et aller chercher l'information et faire le truc dont on a besoin.
Ok. Non, c'est un très bon conseil. Et est-ce que pour Soft Paris, tu as eu des moments peut-être un peu charnières dans ton parcours d'entrepreneuse ?
Alors oui, il y a eu pas mal forcément, il y a beaucoup de moments charnières, mais si je me remets un petit peu dans les débuts, dans le lancement... Certainement, dans les 15 premiers jours de la décision de monter Soft Paris, je me souviens un soir me coucher et dans ma tête, commencer à stresser, zut, comment je vais rembourser mon emprunt étudiant, comment je vais payer mon loyer à la fin du mois, etc. Et je me souviens décider ce soir-là que, quoi qu'il arrive, il faut dormir. Parce que je savais que ce stress de comment j'allais payer ceci, cela, je l'aurais, je risquais de l'avoir pendant un bon moment, mais que pour que ça fonctionne, il fallait que je dorme. Donc ça, voilà, pour moi, c'était un petit moment qui définit les choses. Assez rapidement après ça, je me souviens de ma première plainte de la part d'un client. Je ne sais plus si la poste, elle n'avait pas livré ou elle n'avait pas livré à temps ou j'avais pas le stock, enfin, peu importe. Mais je me souviens de, voilà, première plainte de la part d'un client et de me retourner physiquement pour aller demander conseil à un supérieur. Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, non, il n'y en a pas. Et tu peux compter que sur toi. Voilà, donc ça, c'est un autre petit moment où, voilà, qui a été... Il y a un avant, il y a un après. Pareil, j'étais au lit. Ben là, c'était le matin. Et je me suis rendu compte que, ben, pour la première fois, ou en tout cas, c'est la première fois que je m'en rendais compte, que si je ne me levais pas à l'heure, eh ben, il y a des gens qui allaient attendre. Aller attendre mon input, mes réponses, mon implication, peu importe. Et là, je me suis rendu compte que la petite boule de neige que je poussais depuis plusieurs mois, et ben là, elle commençait à avoir sa propre énergie cinétique. Elle commençait, voilà, elle avait sa propre énergie. Il n'y avait plus besoin juste de moi qui poussait. Et là, voilà, une fois de plus, ça a été un moment où, pour moi, il y a eu un avant et un après. Voilà, c'est la boîte qui commençait à tourner, en fait, tout simplement.
Et ça, c'était au bout de combien de temps, du coup ?
Alors, j'ai du mal à te dire, mais je pense que c'était moins de 6 mois.
Ok. Oui, c'était assez rapidement, en fait.
C'était assez rapidement, ouais. On a parlé un petit peu des erreurs, il y en a en termes de, je pense que l'embauche des bonnes personnes, c'est fondamental. Quand tu embauches, si je peux donner un conseil sur l'embauche, c'est essaye d'embaucher une personne qui est meilleure que toi pour le truc sur lequel tu l'embauches. Donc là, ça veut dire que voilà, faut que tu aies une petite. Si ton réflexe, quand je dis ça, si ton réflexe c'est de dire mais pourquoi, il faut que tu mettes ton ego de côté. Mais oui, c'est voilà, t'es en train d'embaucher quelqu'un qui pour faire un job spécifique, c'est normal que tu sois pas bon dans tout et tu ne peux pas être bon dans tout. Le job d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir des compétences correctes dans plein de domaines différents. Donc, la personne que tu veux embaucher pour faire un job spécifique, tu veux pas qu'elle ait des compétences correctes. Tu veux que ce soit la meilleure du marché. Donc, voilà, oui. Le jour où t'embauches, essaye d'embaucher une personne qui est bien meilleure que toi dans le domaine sur lequel tu veux qu'elle bosse.
Ouais, c'est contre-intuitif, mais effectivement, je l'ai déjà entendu plusieurs fois.
Et c'est vrai.
Et du coup, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une question rituelle pour toi qui est: quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer ?
Pour les gens qui ont envie de basculer, d'arrêter d'y réfléchir, de commencer à passer à l'action, même si ça veut dire que tu gardes ton job du quotidien et que tu bosses le soir, que tu bosses le week-end. Tu peux t'organiser à bosser 3-4 soirs par semaine. Ça veut certainement commencer à vouloir dire faire des concessions, certes, mais tu peux t'organiser pour commencer à mettre les choses en avant. Et fonce, parce que si tu le fais pas, tu regretteras toujours d'être resté dans le groupe des entrepreneurs qui en parlent, mais qui ne font jamais. Donc vas-y, fonce.
Mais ça, c'est un super conseil, parce que souvent les gens pensent que tu es obligé de te mettre à risque tout de suite pour lancer ton projet, mais en fait tu peux, comme tu le dis, faire une espèce de superposition, commencer en même temps que tu es encore dans ton job. Oui,
et d'ailleurs chez Soft, c'est l'une de mes fiertés, c'est effectivement qu'on a vu passer des gens dans nos rangs. Alors la majorité des gens qui bossent avec nous, en fait, ils ont un autre job. Mais avec Soft Paris, ça leur permet de gagner un peu plus d'argent, de faire un truc fun, de voir des gens, peu importe qu'ils y trouvent. Mais en fait, ils ont du coup un deuxième job en entrepreneuriat qui va leur prendre un tout petit peu de temps dans leur mois, pas beaucoup. Et puis certaines de ces personnes, à un moment donné, se rendent compte que le rapport revenu tant que j'y passe est bien meilleur chez Soft, donc ils laissent leur job. Et il y en a d'autres aussi qui, en étant chez nous, se rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est vraiment top, et du coup, décident de créer leur propre truc. On a des gens qui ont des entreprises de gâteaux, on a des gens qui ont ouvert des garages, il y a plein de profils différents qui sortent de chez Soft Paris, justement parce que cet état d'esprit d'entrepreneuriat, tu le retrouves dans la vente directe, et ça leur a mis le pied à l'étrier, en fait. Donc oui, tu peux le faire sans risque, avec, voilà, juste, tu gardes ton job quotidien, et tu le fais un petit peu, et au fur et à mesure, ça va se mettre en place.
Et pour ceux qui veulent en savoir plus, donc sur Soft Paris, tu as le site internet, et tu as aussi sur les réseaux, sur Instagram, le compte Soft Paris, et tu as un deuxième compte Soft Paris direct pour le réseau des vendeurs à domicile.
Exactement, ouais.
Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi ou qui veulent peut-être te contacter, est-ce que tu as un endroit facile d'accès ?
Alors, ouais, je suis sur Instagram, Boss ACD. Donc, ACD, c'est mes initiales, hein, Anne-Charlotte Desruelles. Aussi, podcast@softparis.com. C'est un autre moyen de me contacter. Sinon, si tu laisses un message sur le formulaire de service client Soft Paris et que tu dis que c'est pour moi, ça me sera envoyé sans problème.
Ok, parfait. Merci beaucoup, Anne-Charlotte.
Merci à toi, Sarah.
Pour retrouver toutes les références abordées dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram labascule.academy. Pour plus d'histoires de bascule et de conseils, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter du lundi matin. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir avec un gentil commentaire ou quelques étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.